RCF.
Vous êtes sur RCF, tout de suite une émission spéciale présentée par Jean-Pierre Benoît.
Émission spéciale, bonjour à toutes et à tous, avec RCF Cœur de Champagne et RCF Reims-Ardennes sur toutes nos fréquences, à Reims, dans la Marne et dans le département des Ardennes, avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Mgr, bonjour.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous et à toutes.
On rappelle aux auditeurs qu'ils ne sauraient pas, mais les trois quarts du temps, ils le savent tout de même. Mgr Éric de Moulin-Beaufort est archevêque de Reims, mais aussi président de la conférence des évêques de France. On accueille à notre micro le docteur Jérôme Sainton. Docteur Jérôme Sainton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, mais vous êtes très, très soucieux des questions que nous allons aborder et qui concernent dans cette émission spéciale la fin de vie.
Oui, je suis médecin généraliste et je suis aussi formé en philosophie et en bioéthique.
On aura donc l'occasion d'approfondir avec vous. Et puis, nous allons retrouver tout à l'heure, elle va nous rejoindre, Sandrine Leroy de l'aumônerie des hôpitaux, de l'aumônerie catholique. Monseigneur, on a vu dans l'actualité, cette émission était prévue il y a quelque temps, on a vu qu'il y a eu une évolution, il y a un projet de loi qui a été présenté par le gouvernement sur la fin de vie. On a parlé d'aide à mourir, on parle d'euthanasie, on parle de suicide assisté. On ne s'y retrouve pas très bien dans les expressions. On a même entendu parler au début de fraternité. Et en ce moment, c'est en train d'évoluer parce qu'il y a des amendements à l'Assemblée nationale.
Alors, vous posez des grandes questions et tout un peu comme ça en vrac. Cela fait plus de 2 ans au moins qu'on entend parler de ce projet. Comme vous le savez, il y a eu une loi qui a demandé beaucoup de travail, qui était la première loi Leonetti. Après ça, elle a été reprise et ça a donné la loi Leonetti-Claeys. Qui sont des lois sur lesquelles l'Église catholique s'est bien investie et que nous avons soutenues, hein, et qui en particulier ont mis en avant d'abord les droits des patients et puis ensuite ont mis en avant le renoncement à l'acharnement thérapeutique qu'on appelle maintenant de plus en plus l'obstination déraisonnable. Voilà, et ça, ces lois ont représenté une certaine transformation, disons, dans la médecine telle qu'elle était pratiquée, en particulier dans les hôpitaux. Où de fait, la tendance était quand même à essayer le maximum de traitements, le maximum d'actions possibles pour faire face à la maladie, pour essayer de retarder ou de ralentir la venue de la mort. Et ces lois Leonetti et Leonetti-Claeys ont permis de passer à une autre manière de faire, en accompagnant davantage le patient, en évitant les traitements qui ne servent à rien ou qui ne peuvent que prolonger des situations de souffrance, voire tout simplement d'inconfort. Voilà. Et comme sans doute les auditeurs le savent, la loi, Leonetti-Claeys a prévu, dans les cas extrêmes, quand la médecine ne peut plus faire quelque chose, mais que le patient est vraiment douloureux, eh bien, la sédation. Voilà. Et nous, catholiques entre autres, mais aussi les autres religions, nous avons validé cela, pour autant qu'on nous le demandait, au sens où nous faisons une grande différence entre laisser mourir et faire mourir. Voilà. Avec la sédation profonde, on permet à quelqu'un de s'endormir. Il se trouve que ça risque de provoquer sa mort, mais ce n'est pas ça qui est cherché comme effet. Ce qu'a cherché comme effet, c'est de soulager la douleur. Voilà.
Et alors, Monseigneur, c'est vrai, je vous interromps, parce que dans l'opinion, et en particulier dans les médias, on a tendance à caricaturer, parce qu'il faut faire vite, on se dit, mais l'Église catholique, les chrétiens, ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui souffrent et qui peuvent avoir la liberté de dire, moi j'en ai marre, il faut que je mette un terme à cette existence. Et ils reprocheraient presque à l'Église catholique, mais attendez, soyez, comprenez-nous. Et donc l'opinion publique, à 99%, voyant la mort, voyant la souffrance, dit, ben nous, on est pour.
Ben, voilà, c'est un fait très important que vous soulignez. D'abord, il est important de rappeler que pour nous, catholiques, il n'y a pas de valeur de la souffrance en soi. Voilà, il se trouve que pendant des millénaires, des siècles, les gens ont souffert de toutes sortes de manières. Il y a eu des douleurs qu'on ne pouvait pas soulager. Et par conséquent, il fallait bien en faire quelque chose. Il fallait bien pouvoir l'assumer. Aujourd'hui, nous avons la capacité de soulager la douleur. La souffrance est peut-être un peu autre chose, parce qu'on peut peut-être faire une distinction entre la douleur, qui est un fait physique, plus ou physiologique, et puis la souffrance qui est plus un retentissement psychologique et spirituel, donc qui pour le coup est plus difficile à enlever. Mourir, ça sera toujours douloureux, mourir sera toujours difficile, peu d'entre nous ont envie spontanément de mourir, et en tout cas peu d'entre nous ont envie d'être malade aussi dans la longue durée, d'être privé de la pleine maîtrise de leur être, bien sûr. Donc ça, il faut être bien clair qu'il n'y a pas de valeur en soi de la souffrance. Mais aujourd'hui, grâce aux soins palliatifs, on a acquis une immense capacité de prendre en charge la douleur. Et ce que nous, comme Église, mais beaucoup d'autres avec nous, plein de soignants l'ont dit et le disent aujourd'hui, la loi Lénotikles qui prévoit que tous nos hôpitaux, que toute la France soit équipée d'unités de soins palliatifs, n'est pas vraiment appliquée. Il y a encore un quart de département où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Alors le gouvernement a pris des engagements, et nous espérons bien qu'il les tiendra. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de dire quand même, je ne peux pas m'empêcher de dire ce soir quand même, que ces engagements, ça fait 20 ans qu'on les entend.
Et c'est sur 10 ans ces engagements.
Alors
déjà,
c'est des engagements sur 10 ans, ce qui est normal. On va pas, c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire sortir des professeurs de médecine formés aux soins palliatifs, ni des étudiants qui auront terminé leur cycle d'études. Donc que ça prenne du temps, ce n'est pas anormal. Mais précisément, ça prend du temps et c'est un investissement premier qu'il faut faire. Le problème de fondamental devant lequel nous sommes, c'est que nous avons un système hospitalier très sophistiqué, mais dans lequel une grande partie de la population n'a plus tout à fait confiance, dans lequel on s'est mis dans la tête qu'on était forcément douloureux, maltraité, ce qui n'est pas toujours vrai, et on est souvent bien accompagné. Et je crois qu'il faut quand même se rappeler que même si mourir c'est toujours douloureux, il y a des tas de gens qui meurent paisiblement, entourés des leurs, accompagnés par les leurs, est bien soutenu par notre système médical, que ce soit à l'hôpital, que ce soit chez eux. On a quand même beaucoup progressé, et c'est le cas le plus ordinaire, il faut quand même le rappeler. La polarisation que nous vivons depuis 2 ans sur des cas très douloureux qui existent, et on va y venir, mais cette polarisation sur ces cas crée une sorte de panique dans la population. Et je pense qu'il est important quand même de se rappeler de notre condition mortelle. Encore une fois, la mort n'est pas une chose drôle. Nous, chrétiens, nous savons bien que c'est le grand ennemi, c'est le grand scandale, la mort. Mais on peut la porter, on peut s'y accompagner, on peut la vivre. Mourir, c'est encore être humain, c'est encore un acte humain. Il s'agit d'être vivant jusqu'au bout, jusque dans la mort.
Docteur Jérôme Sainton, vous écoutez, oui, vous entendez Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous êtes vous-même soignant, médecin. Comment vous vivez ce moment de débat autour de l'euthanasie, du suicide assisté, de l'aide à mourir, des soins palliatifs? Je mets tout en vrac pour que vous choisissiez un petit peu votre angle de réponse.
Oui. Avec beaucoup de décalage. J'ai quand même une petite expérience en soins palliatifs et dans le passé et au présent. Moi, je peux rebondir sur ce que, en fait, comment vous aviez introduit tout à l'heure et sur la question en fait que vous avez posée à Monseigneur, c'est que on présente donc les choses. Personne n'aime souffrir et la question est mal posée, dites-vous. Vous n'allez quand même pas empêcher, vous n'allez quand même pas nous empêcher de ne pas souffrir, en gros. En fait, les revendications actuelles qui sont portées actuellement, c'est pas la question de la douleur. C'est les revendications, quand on écoute ce qu'il y a derrière ceux qui ont porté les projets de loi, ceux qui sont en lobbying derrière, c'est une revendication pour la dignité, c'est rester digne parce que pour et là c'est pour un petit nombre de personnes, le petit nombre de personnes qui veut ce projet de loi considère que ne plus être en capacité de entrer dans ce qu'ils appellent une déchéance, c'est une atteinte à leur dignité. Et c'est ça, c'est à cette question-là qu'ils veulent une réponse.
Mais
c'est
pas la question de la douleur et de la souffrance. En tant que médecin, comment réagit-on dans votre communauté médicale, soignant, parce que vous avez un rôle essentiel d'accompagnement et vous êtes quand même en première ligne.
Oui.
Comment le corps médical, dans son ensemble, d'après ce que vous en savez, réagit, les soignants,
alors,
les aides-soignants?
C'est très varié, mais globalement, alors c'est à grands traits, hein. Les plus expérimentés en soins palliatifs, les plus proches du soin palliatif, rejettent complètement ce projet. à quelques nuances près, et les moins expérimentés, ils sont plus, sinon favorables, en tout cas restent neutres. C'est ceux qui sont sur le terrain, qui font du soin palliatif tous les jours, qui savent que c'est en décalage, en fait.
Dans le serment d'Hippocrate, vous aidez à vivre. Et c'était à mourir quand même, vous êtes peut-être en porte-à-faux tout de même.
Ah, mais complètement. Le serment d'Hippocrate, il a été rédigé d'une façon tout à fait particulière. Au cœur du serment d'Hippocrate, au centre du serment, l'auteur du serment a écrit l'interdiction de l'euthanasie pour définir ce qu'était la médecine, en fait. Parce que la médecine, c'est restaurer la santé. C'est accompagner la santé, restaurer la santé autant que faire se peut. Et c'est complètement antinomique avec le fait de donner la mort.
Alors, évidemment, on va faire réagir également, elle vient de nous rejoindre, Sandrine Leroy. C'est vrai que vous êtes vous-même confronté, vous rencontrez beaucoup de personnes âgées, parfois dépendantes. Est-ce que cette question, on entrera dans le détail ensuite, elle commence à être abordée ou personne n'en parle, ou est-ce que on en parle dans l'aumônerie, on en parle dans les maisons de retraite, ou, parce qu'il y a des personnes qui sont très très âgées et qui peuvent, à un moment donné, on y viendra tout à l'heure, être un peu désemparé et se dire « je sers à quoi ?» Et finalement, c'est peut-être là que les dérapages peuvent commencer.
Bonsoir à tous. Ben, disons qu'en EHPAD, on en parle très peu. Ce n'est pas un sujet qui est mis sur la table, aussi bien par le personnel soignant que par nous, aumôniers. Disons que la fin de vie en EHPAD entraîne dépendance et fragilité. Ça, nous le savons. Et cette période souvent douloureuse demande un profond soutien. Mais je n'en entends pas parler du tout.
Monseigneur.
Là-dessus, alors, le projet de loi lui-même, pour le moment, il concerne des personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable. Alors la vieillesse, le grand âge n'est pas encore considéré en soi comme une maladie quand même. Donc le projet de loi se veut définir des conditions strictes. Non seulement il faut avoir plus de 18 ans, il faut la nationalité française, il faut être atteint d'une maladie incurable. Il y a eu, peut-être que les auditeurs l'ont entendu, en commission spéciale, une proposition de correction. On va voir si le gouvernement la maintient ou pas. Parce qu'il était dit dans le projet de loi que le pronostic vital doit être engagé à court ou moyen terme. Et ceci a été jugé trop flou par un certain nombre de parlementaires, mais aussi de médecins, de spécialistes. Et certains parlementaires ont proposé, la commission spéciale a adopté une autre formulation qui parle d'une affection durable et irréversible. Bon, mais aujourd'hui, visiblement, d'abord le gouvernement veut revenir à sa formulation initiale, et ensuite il n'est pas clair de savoir ce que telle formulation recouvrait comme cas ou pas. Vous voyez, donc il y a un flou de ce point de vue-là. Mais encore une fois, donc pour le moment, il n'est pas question de dire que la vieillesse serait en soi une maladie incurable. Et qui ouvrirait droit à cette aide à mourir. Mais ce que, pour ma part, je redoute malgré tout, alors dès qu'on dit que l'on redoute, on nous dit que c'est pas ça du tout que nous voulons faire, très bien, mais c'est que il faut comprendre que notre système de nous vivons en France, enfin d'abord, humainement, dire que l'on meurt seul et que l'on est maître de sa mort, que la mort n'appartient qu'à soi, je trouve que c'est une vision très pauvre de l'humanité. C'est-à-dire que la mort de quelqu'un me concerne, même si je ne connais pas ce quelqu'un. Le fait que des hommes et des femmes meurent me concerne, même si je ne suis pas attaché à eux par des liens de la chair et du sang. Nous formons malgré tout une seule humanité. Nous ne sommes pas des êtres isolés, simplement coupés les uns des autres, comme si le sort de l'un ou de l'autre n'avait pas de répercussions sur nous, ne nous concernait pas. Et puis, de surcroît, en France, nous vivons dans un système de santé très, très organisé, qui est en difficulté aujourd'hui, mais qui est malgré tout très sophistiqué et qui nous apporte beaucoup, auquel il faut quand même rendre hommage et qu'il faut chercher à améliorer. Et je redoute beaucoup précisément que l'ouverture de cette aide à mourir donne cette idée que vous avez insinuée à l'instant, c'est-à-dire que très âgées, des personnes très affaiblies, des personnes dépendantes se conçoivent elles-mêmes comme un poids pour la société. Et ça, je crois que nous avons à... Il faut que nous sortions de l'idée que la dépendance serait une indignité, qu'avoir besoin des autres, ce serait ne pas vivre pleinement. Il y a des phases de la vie où nous sommes autonomes, où nous construisons, où nous agissons, où c'est nous qui faisons du bien. Et puis il y a des moments où nous avons besoin que les autres nous fassent du bien. Mais c'est encore contribuer à l'humanité. Quand des soignants viennent nous faire des actes de soins, bien nous leur permettons d'être bons, puisqu'ils font des actes bons, nous leur permettons d'être meilleurs. Quand des visiteurs d'hôpital viennent vous voir, quand l'aumônerie vient vous rendre visite, nous permettons à d'autres personnes d'être, vous voyez, de nous faire du bien. Et c'est une grande chose. Et ça, je crains que notre société oublie cela.
Docteur Sainton, vous vouliez ajouter une réaction à ce que
je suis tout à fait d'accord, sans même arriver en fin de vie. Moi, je vois à ma consultation de plus en plus des personnes qui sont brisées, en dépression, à cause de cette société de la performance, en fait. Une société qui est polarisée par l'efficacité, par la performance. Et je suis effaré de voir des gens soi-disant bien... bien portants, qui sont pas en fin de vie, hein, qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui ne sont déjà plus en possession de leurs moyens, qui sont en grande souffrance à cause de cette société où il faut être encore plus efficace, encore plus performant. Et donc, moi, je fais tout à fait écho au propos de Monseigneur, c'est que on est en lien, on forme une seule et même humanité. Et là, c'est quelque chose... C'est pas tant un mensonge. Je pense que les partisans de cette loi sont honnêtes quand ils pensent que la liberté, c'est quelque chose de purement individuel, etc. Mais c'est une erreur complète. En fait, ce qui se dessine là, c'est au contraire quelque chose de très hétéronome. C'est de l'utilitarisme où, en fait, on va... Monseigneur disait, les gens vont sentir être un poids. Effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on est en train... de dire que être dans la dépendance...
Mais Jérôme Sainton, je vous interromps. Sur d'autres médias, on vous dira, mais attendez, vous êtes un oiseau de mauvais augure. Il ne s'agit pas de cela. C'est très cadré. On va pas déraper.
C'est pas du tout
la
très
porte
cadré.
Est entrouverte, mais personne ne va l'ouvrir davantage.
C'est pas du tout cadré. Le cadre, il saute. Le cadre, c'est l'interdit de tuer. Hein. Le cadre, c'est le serment d'Hippocrate. À partir du moment où on l'enlève... c'est pas vrai de dire qu'il y a un cadre, le reste est arbitraire. Et on voit bien ce qui se passe au Canada, c'est le plus criant. Au Canada, on est déjà dans cette auto-exclusion des plus fragiles qui demandent l'euthanasie parce qu'ils ne peuvent plus se soigner, parce qu'ils ne veulent plus se soigner, parce qu'ils ne veulent plus être un poids, avec des témoignages assez glaçants de Canadiens qui disent je voudrais ne pas avoir recours à l'euthanasie. Mais là, les conditions qui me sont faites font que je vais demander l'euthanasie.
Est-ce que ce ne sont pas les plus pauvres, au fond?
Ah si, au Canada.
Au Canada, il y a des enquêtes là-dessus. Oui.
On le dit aussi de l'Oregon. L'Oregon est un État des États-Unis qui a mis depuis quelques années en place un système de suicide assisté, ce qu'il est intéressant de réfléchir. Mais ce qui ressort, c'est qu'une proportion très importante de ceux qui y ont recours sont des personnes en précarité sociale. Et c'est quand même un point sur lequel nous voulons, comme évêque, attirer l'attention de tous, en particulier des parlementaires. Comment donner confiance aux plus fragiles, aux plus simples, aux plus humbles, qu'ils comptent dans notre société et que notre société est prête à se tenir à leur côté pour qu'ils puissent vivre jusqu'au bout.
Sandrine Leroy, au quotidien, quand vous allez dans les EHPAD, quand vous rencontrez des personnes âgées, voire très âgées, il se passe entre elles et vous une confiance parfois. Vous avez le sentiment de ne pas avoir des personnes qui désespèrent. Vous les aidez, vous les accompagnez. Pouvez-vous témoigner un petit peu de ces échanges que vous avez au quotidien ?
Disons qu'il est vrai que dans les EHPAD que je visite, nous avons un grand nombre quand même de résidents qui ne demandent qu'à partir. Ça, faut être honnête. Ils disent bien, ce n'est pas une vie pour nous, finir ainsi, ou alors je serais mieux en bas qu'en haut. Ce sont le genre de réflexions que nous entendons assez régulièrement. Mais moi, quand je les visite, je ne vois pas un malade, je ne vois pas une personne, je la vois bien âgée, mais je vois plutôt un homme, un mari, une femme, un père, une mère, avec des peines et des souffrances, des gens qui ont dû quitter leur maison, leur ville, leur famille, et qui se retrouvent là, tout seuls. moi personnellement, je ne les vois pas autrement comme une personne qu'il faut écouter et qui ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux. Mais pour certains, même notre présence ne les suffit plus. Ils ne demandent qu'à partir. Qu'est-ce que je fais encore là? J'ai 101 ans. Qu'est-ce que j'ai à faire? Rester couché dans mon lit 24 heures sur 24. Je ne vois plus rien. J'entends plus rien. Nous avons une grande majorité quand même de résidents qui ne se retrouvent plus et qui ont besoin. Ils le disent bien. J'ai besoin de partir. Ils me disent qu'est-ce que le Seigneur attend pour me rappeler auprès de lui?
Et j'ai qu'est-ce donné. Que vous leur dites alors, vous?
Je lui dis, c'est lui qui décidera, déjà. Je leur dis, il veut peut-être que vous restiez encore un peu avec nous. J'ai encore des tas de choses à apprendre avec vous. Parce que non seulement je les visite, mais j'apprends énormément auprès d'eux. Tous les aumôniers apprennent. Ils ont une vie, ils ont eu un vécu. En ce moment, nous avons un batelier, nous avons un chasseur alpin. Donc, je veux dire, on a des personnes qui ont des vies différentes de ce qu'on peut connaître tous les jours. Et j'essaie de leur dire, j'ai besoin d'apprendre aussi.
Mais vous lancez en quelque sorte un appel à la fraternité, au sens très large, peut-être parmi les auditeurs, de visiter comme vous, de renforcer les aumôneries, de demander aux familles. On peut toujours espérer, Sandrine Leroy.
En tout cas, il y en a besoin.
On a un grand, grand besoin.
Il y a un grand besoin de visite, un grand besoin de visiteurs, ça je crois pouvoir dire, hein, Sandrine
en
réclame assez souvent. Et c'est un sujet d'ailleurs, précisément, c'est qu'il n'y en a sans doute pas assez. Mais précisément, est-ce que notre société va se résigner à ce que nous allons tous devenir âgés, nous allons tous vivre très âgés, voire très très âgés un jour? Et est-ce que nous allons être abandonnés, tout seuls, ou est-ce que quelqu'un va bien vouloir nous rendre visite et essayer de découvrir ce que nous pouvons apporter? Sandrine Leroy a très bien décrit cet aspect un peu dépressif qu'il y a forcément dans certaines phases du très grand âge. Mais on sait aussi que les mêmes personnes qui peuvent dire quelque chose, exprimer, dire voilà qu'est-ce que je fais ici, etc. Eh bien, si elles reçoivent une visite, si elles voient un petit enfant, etc., il y a un moment différent. Voilà. Donc, toute la question, c'est pas parce qu'on exprime ce désir qu'on a envie qu'il se réalise tout de suite. Et surtout, c'est pas pour autant qu'on a envie que la société le réalise. C'est-à-dire que le bon Dieu nous appelle, c'est une chose, mais que notre corps lâche, c'est une chose, on peut le dire d'une manière ou d'une autre. Mais que la société s'organise pour nous dire ça tombe bien, vous voulez ça, faites votre demande en bonne et due forme et on vous fournira le moyen d'en finir. Comment ne pas voir précisément le glissement facile de notre société et de notre système hospitalier à ce moment-là? Parce que comment est-ce que nous allons nous mobiliser des énergies, mobiliser des forces professionnelles ou bénévoles pour venir soutenir, accompagner des personnes dans une telle situation, si la porte de sortie paraît tellement simple, tellement évidente et tellement ouverte à tous? C'est là que, pour ma part, je trouve ce projet de loi très très inquiétant, parce qu'il va déséquilibrer notre système social, que nous le voulions ou non.
Alors c'est vrai, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, que le message médiatique a du mal à passer, vu les réactions de l'opinion dont on parlait, et le procès d'intention qu'on peut vous faire, Jérôme Sainton, disant mais vous voyez le mal partout, parce que c'est pas ça du tout qu'on veut faire, le dérapage n'existera pas, ayez confiance, il y a un cadre, ça va bien se passer. Alors qu'on sait que au Canada, vous la visitez, il y avait des problèmes de financement de la sécurité sociale là-bas, qui porte un autre nom, et que finalement, ça pourrait être une variable d'ajustement. On se dit, de toute façon, les personnes qui veulent disparaître, elles disparaissent, ça coûtera moins cher à la sécurité sociale.
Oui, alors en précisant que je mettais ça sur le tapis pour montrer quelle est l'orientation et quel est le fond philosophique qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est pas le premier problème. Le premier problème, c'est pas le seul problème. Le fait de donner la mort, c'est déjà un problème en soi. Hein. C'est déjà hors du cadre. Moi, je veux bien rebondir en lien avec ce qui vient d'être dit. Et après Sandrine, les patients qu'on accompagne en soins palliatifs, On a toute cette ambivalence hein, de vouloir partir, de vouloir en finir. Et il m'est arrivé plusieurs fois, moi, d'accompagner aussi des patients qui voulaient l'euthanasie. Hein. Et on s'est toujours, jusqu'à maintenant, très bien entendu, alors que bon, j'ai toujours bien expliqué quelle était ma position. En fait, c'est moi de mon expérience que les gens demandent ou non l'euthanasie en fin de vie, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'être vraiment reconnu et respecté dans leur personne. Et alors que les choses se présentent comme je veux maîtriser les choses, je veux être dans la maîtrise et je veux décider. Ça, c'est le besoin qui est exprimé. Mais le vrai besoin, moi, que j'ai rencontré, c'est celui d'être reconnu, respecté et aimé, en fait. Alors, c'est quelque chose qui passe mal hein, lorsque je me risque dans des débats avec la DMD ou autre. En général, c'est assez violent. Mais voilà, eux me disent, nous, on veut pouvoir décider, on veut pouvoir être maître. Moi, je leur dis que ce que j'ai observé jusqu'à maintenant, dans tous mes accompagnements, c'est que le vrai besoin, et à chaque fois, c'était vérifié, y compris chez les patients qui étaient en demande d'euthanasie, le vrai besoin, c'était le besoin d'être aimé, en fait. Jusqu'à maintenant, alors je dis pas pour plus tard, mais les patients avec qui on n'était pas d'accord sur ce sujet, les choses se sont très bien passées et voilà, elles m'ont toutes remercié parce qu'elles étaient reconnues dans leur dignité en fait.
Si vous le voulez bien, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, Jérôme Sainton et Sandrine Leroy, on se retrouve dans une poignée de secondes, le temps de faire une petite pause et on approfondit un petit peu la question. Émission spéciale sur la fin de vie avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, Sandrine Leroy et le docteur Jérôme Sainton qui sont avec nous. On va revenir bien sûr sur la loi, Monseigneur, pour bien comprendre ce qui avait été proposé par le gouvernement, ce qu'ensuite les amendements et les commissions spéciales au Parlement modifient. On a l'impression que ça se durcit un petit peu. Et puis des témoignages avec vous, Sandrine Leroy, vous en avez déjà donné tout à l'heure. J'avais envie de rebondir là-dessus parce que pour commencer, avant de revenir à la loi, c'est que parfois dans les maisons de retraite, je me souviens d'être allé dans les Ardennes, il n'y a pas très longtemps, dans une maison de retraite, et je voyais le dimanche une même personne qui était sur une chaise et qui attendait les visites. Et je la voyais tous les dimanches. Et j'ai demandé à une infirmière ou une aide-soignante qui était là, j'ai dit « Mais que fait cette dame? Je la vois toujours. » Et elle me dit « Ça fait 3 ans qu'elle attend le dimanche et elle sait que c'est un dimanche. » Elle va mettre sa chaise pour attendre des visites de la famille qui ne viennent jamais. Et à chaque fois, quand c'est terminé, vers 4 à 5 heures, elle se dit « ils peuvent pas venir ». Elle dit « ben, ils sont pas venus, personne n'est venu ». C'est peut-être aussi un appel pour les auditrices et les auditeurs pour qu'ils aient à l'aumônerie. Alors peut-être qu'il y a des conditions particulières, que les enfants ne peuvent pas se déplacer, qu'ils sont trop loin, qu'ils sont peut-être eux-mêmes très souffrants. Mais c'est vrai d'appeler à cette fraternité-là, Sandrine Leroy.
Il est vrai que ce genre de cas est régulier. J'ai même un résident qui, on essaie de le faire sortir de sa chambre, mais il a toujours la main sur le téléphone. Alors je lui dis, on va sortir, prendre l'air, on va discuter un peu. Non, mais vous imaginez, si jamais mon fils appelait, je dis, c'est pas grave, je dis, on peut juste sortir de la chambre, au moins ne serait-ce de faire 2-3 pas. Non, il ne lâche pas le téléphone. Et moi, je voudrais rebondir sur autre chose. Ce qui m'inquiète quand même un peu maintenant, c'est que lorsqu'un résident, une personne, ne se sent pas bien, automatiquement, tout de suite, les familles pensent c'est la fin de vie. C'est tout de suite, il n'y a pas, comment dirais-je, on peut se dire, ben, elle est fatiguée ou elle a juste besoin de détente. Non, venez vite, maman n'est pas bien. C'est la fin de vie, venez vite.
Mais justement, en ce moment, il peut y avoir une pression avec ce qui se passe.
C'est peut-être pour ça. Oui. Je sais que la dernière fois, un fils et une fille sont venus me voir. Vous venez voir maman, s'il vous plaît. Maman, c'est la fin de vie, on en est sûr et certain. Être très croyante, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? J'ai dit, ben, écoutez, je vais venir. Je suis donc allée voir cette dame, bien gentille dame de 82 ans. Et elle était, c'est vrai, un peu triste dans son lit, elle ne bougeait pas. On a engagé la conversation, on a prié parce qu'elle avait demandé. Puis au fur et à mesure, elle reprenait un peu de poil de la bête. C'est pas moi qui ai fait un miracle ou quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite. Mais je veux dire, elle avait un interlocuteur. Elle avait quelqu'un. Et à un moment donné, sa fille, elle rentre, puis elle voit sa mère se relever, parler, être bien. Et moi, je continue avec cette dame. Et quand je sors, je me fais agripper par la fille. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait à ma maman? Elle devait mourir. Je lui dis, je n'ai rien fait à votre maman. J'ai juste écouté votre maman. Je dis, votre maman n'est pas en fin de vie. Votre maman était juste fatiguée. Elle m'a dit que sa maman, en fait, m'avait dit que mes enfants me font chier. Excusez-moi, ce sont ces mots. Parce qu'ils sont collés à moi. Donc, je fais celle qui est malade, qui n'en peut plus. Comme ça, ils me fichent la paix.
Merci Sandrine Leroy. On a l'impression d'être loin du débat. C'est vrai qu'on est loin du débat d'actualité sur la loi elle-même, mais on voit bien, on sent bien qu'il peut se passer des choses, des dérapages, des portes semi-entrouvertes qui peuvent s'ouvrir dans quelques années.
Mais c'est quand même dangereux le fait que maintenant les familles pensent tout de suite.
Eh ben c'est ça.
À la fin de vie.
Ça, je pense que Sandrine touche un point très très important. Ça rejoint ce que je disais en commençant, c'est-à-dire on est persuadé que la fin de vie ne peut être qu'une chose. Enfin, très 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 douloureuse, très effrayante, etc. Et c'est pas forcément le cas. Et puis ensuite, il y a des tas différents possibles dans le temps qui précède la mort et qui peut être parfois très 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 long, parfois très douloureux, mais parfois aussi qui est l'occasion de tout un travail de reprise de sa vie qui est un travail très très important. Et il faut que collectivement nous le rendions possible. Et je trouve que toutes les remarques que fait Sandrine Leroy nous ramènent à ce qui était censé être une urgence du gouvernement, mais une urgence qui devant laquelle on recule toujours pour des raisons bien compréhensibles, c'est la question du grand âge. Et ça fait des années qu'on nous parle d'un plan grand âge, parce que, de fait, le Covid a montré les limites de notre système de prise en charge des personnes âgées. Il est vrai que nous allons tous vieillir et très très longtemps, et ça pose des tas de questions difficiles à la société. Alors, c'est une autre question que celle que la loi actuelle veut traiter, mais les deux questions ne sont quand même pas sans lien, on le voit bien dans notre conversation.
Alors, est-ce que, pour revenir à la loi pendant 2-3 minutes, et on prendra des exemples, on avait l'impression quand même qu'il y avait une forme de cadrage dans une première mouture gouvernementale, et que là, est-ce que ce sont des lobbies, on n'en sait rien, qui font pression davantage à l'Assemblée, en tout cas au Parlement, pour, j'allais dire, faire que la loi soit un petit peu plus dure, enfin qu'il y a un certain nombre de verrous qui sont en train de partir et de lâcher. Monseigneur, vous aviez parlé au début, quand on avait évoqué le mot de fraternité, que c'était pas tout à fait la fraternité et la mourir, mais là...
C'est un peu différente, si vous permettez, Jean-Pierre, parce que la fraternité, parler de loi de fraternité ou... C'est de la rhétorique, c'est
de la communication aussi.
Ce n'étaient pas les critères mis dans la loi. La loi ne parle pas comme ça, c'est la manière de la présenter. Et j'avais réagi fortement à l'usage de ce terme parce que précisément, nous tous les cultes, nous avons appelé à un sursaut de fraternité dans cette affaire pour accompagner la vie. Et j'avoue que j'avais été un peu déçu, peut-être un mot un peu faible même, de voir le président de la République approprier ce mot de fraternité au geste qui consisterait à donner la mort à quelqu'un ou à permettre à quelqu'un ou à aider quelqu'un à se donner à lui-même la mort. Alors que quand on est face à quelqu'un qui est tenté de se suicider, pour le moment encore, la réaction de fraternité, ça consiste à l'empêcher de se suicider et puis après essayer de lui redonner des raisons de vivre. Voilà, si on commence à changer cela, voilà, où va-t-on ? Alors, dans les critères très précis que la loi veut tenir, il y a donc le fait d'avoir plus de 18 ans, la nationalité française, il y a la question d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé. Alors là-dessus, on l'a dit, il y a une ambiguïté et une évolution terminologique qui n'est pas claire. Et puis la question de la pleine conscience. Hein, Madame Vautrin est revenue et elle a insisté beaucoup sur le fait que dans la loi, ce qui compte, c'est qu'on est pleinement conscient. Ce qui pose d'ailleurs à un certain nombre de personnes la question des directives anticipées. Et pour le moment, telle que la loi est rédigée, si, même si à 50 ans, j'avais une directive anticipée en disant que je souhaitais avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté, eh bien, si je suis à un moment donné inconscient ou privé de ma conscience pour une raison ou pour une autre, on ne pourra pas l'appliquer telle que la loi est rédigée. Parce que la loi exige le consentement, la demande formulée aujourd'hui, ici et maintenant, de la personne concernée. Ça me paraît un verrou vraiment...
Très important.
Et j'espère que le gouvernement le tiendra jusqu'au bout. Sur les débats au Parlement, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une phase en commission spéciale. Et puis là, aujourd'hui au Parlement, le jeu est beaucoup plus ouvert. Et il y a des députés qui travaillent le sujet, qui sont travaillés ou qui travaillent le sujet. Et je ne sais pas vers quoi va s'orienter la discussion et quel sera le texte dans une dizaine de jours quand il sortira de l'Assemblée nationale. En attendant de passer au Sénat. Mais ça peut se jouer dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de discussions et beaucoup de recherches du côté des députés, et ça, c'est plutôt une belle chose.
Docteur Jérôme Sainton, vous vouliez réagir peut-être sur la loi, ou peut-être aussi sur les soins palliatifs. On les a évoqués très rapidement tout à l'heure. Et vous-même, Monseigneur, avec la conférence des évêques, vous avez insisté sur l'importance de ces soins palliatifs, puisque de nombreux départements en France ne sont pas dotés de structures. Il y a des manques extraordinaires. On ne peut pas former, comme l'a dit Monseigneur tout à l'heure, des professeurs chargés de ces questions en six mois. Mais pourtant, c'est une vraie question, Jérôme Sainton, les soins palliatifs.
Oui, alors la loi prévoit un développement des soins palliatifs. En fait, ce qui est prévu sur les 10 prochaines années, c'est en gros ce qui a déjà été prévu jusqu'ici. On continue.
Vous voulez dire que c'est pas assez ambitieux
par rapport aux besoins? Non, c'est en fait on continue sur. Ça équivaut à ce qui a été fait ces dernières années. On continue sur cette progression avec des besoins qui progressent et qui sont déjà largement pas couverts. Non, la loi là, elle est pas faite pour les soins palliatifs, même s'ils sont intégrés dedans. Elle est vraiment faite pour l'euthanasie. Là où je voudrais peut-être intervenir, c'est par rapport à la question de la liberté des soignants aussi, qui va être écrasée en fait. On parlait de la commission spéciale. Il y a un petit détail qui montre bien en fait. On parle de verrou, on parle de cadrage. On voit en fait qu'en un mois, il y a déjà des tas de choses qui se discutent, qui se proposent, et on voit très bien dans quel sens les choses iront. Et un petit détail, c'est que la commission spéciale a voté l'amendement de mettre un délit d'entrave. C'est-à-dire que celui qui, demain, si la loi est votée comme la commission spéciale le veut, celui qui fait ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit essayer de conseiller à quelqu'un de ne pas se suicider. Et voire l'empêcher. En tout cas, voilà. Celui qui fera ça, ce sera un an de prison et 15 000 euros d'amende, éventuellement. Et un député de la commission spéciale a dit, si on met un délit d'entrave, faut mettre un délit d'incitation aussi. Faut pas non plus, puisqu'on parle de liberté, il faut pas non plus qu'on puisse inciter à l'euthanasie. Cet amendement-là a été rejeté. Donc le délit d'entrave, lui, il a été voté. Le délit d'incitation, lui, il a été rejeté. On voit bien, et c'est là où je voulais en venir par rapport à la liberté des personnes et des soignants, qu'on veut soutenir une liberté qui va dans un sens, c'est la liberté de transgression, et pas la liberté de conscience et la liberté pour le bien, en fait. Et typiquement, la loi a prévu une clause de conscience qui est très maigre, en fait. Qui déjà impose à ceux qui en bénéficieront de passer la main, donc quand même de collaborer d'une certaine façon. Et de toute façon, les pharmaciens seront exclus de cette clause de conscience. Les établissements eux-mêmes qui ont des projets de soins, je connais des cliniques assez extraordinaires, les établissements qui ont des projets de soins avec des finalités, des valeurs, etc., n'auront plus leur mot à dire. Donc tout est organisé pour qu'il y ait une certaine liberté qui soit garantie au détriment de celle des autres. Et de la même façon, c'est le même jeu avec la dignité. Pour que une certaine représentation de la dignité soit satisfaite. La dignité que se font les soignants de leur personne, de leur métier, elle devra être neutralisée pour faire droit à cette loi. Donc voilà, les choses vont vraiment dans un sens. Et quand on parle de liberté, et on revient sur le paradoxe qu'avait souligné Mgr de Moulin-Beaufort, c'est que on sait anthropologiquement qu'on n'est pas des individus. On est une même humanité, on est tous reliés les uns aux autres. Le paradoxe va forcément atterrir sur la table. La personne qui veut quelque chose et le soignant qui ne veut pas, comment est-ce qu'on fait pour résoudre l'antagonisme ? Forcément, si on est dans une perspective individualiste, ben, ça va forcément être force contre force. Et on rentre dans un rapport de force, en fait. On est sur une conception de la liberté qui est conflictuelle et qui remonte un petit peu au soubassement individualiste de notre société hein, actuelle.
Sandrine Leroy, une réaction à ce que vous venez d'entendre sur le terrain ?
Oui, disons qu'il faut voir aussi l'inverse. Nous avons maintenant des familles qui mettent leurs parents en EHPAD trop jeunes, moins de 60 ans, Alzheimer ou AVC. Et ces familles, de voir leurs proches dans cet état, impossible de réagir ailleurs, ne pas les reconnaître, ben, certains disent qu'il serait mieux ailleurs. Il serait mieux qu'ils partent. Pas seulement pour lui, mais surtout pour eux. Parce que c'est devenu insupportable de voir des personnes de 50, 55 ans, 60 ans qui arrivent en EHPAD, parce qu'on n'a pas d'établissement pour eux. Et ces familles-là, elles en sont à se demander si ce ne serait pas mieux que cette personne parte.
C'est vrai que la question est posée, Monseigneur.
Mais c'est une vraie question et que je pense chacun d'entre nous peut identifier des situations dans lesquelles on se pose cette question. À quoi sert tout ce temps et... Voilà. Mais c'est une chose de se poser la question, c'en est une autre de passer à l'acte.
Tout à fait.
C'en est une autre de s'organiser pour passer à l'acte. Et je crois que il faut pas sous-estimer l'importance, enfin le geste qui consiste à donner la mort n'est pas un geste banal. Un soignant qui va intégrer dans son métier de donner la mort, ce n'est pas rien pour lui. Et le projet de loi aujourd'hui prévoit même que ça puisse être un proche. Ce que aucun pays au monde n'avait encore imaginé. Là, on est devant quelque chose de, pour le coup, complètement inédit. Il faut être aussi intelligent que nous, Français, pour imaginer quelque chose pareil que de encourager ou rendre possible à un proche d'injecter un produit létal dans quelqu'un, dans un de ses proches, un parent, un frère, une sœur, un ami, un voisin, que sais-je. Comment est-ce que cette personne va vivre cela ensuite ? Comment est-ce qu'on va accompagner les traumatismes que l'on est en train de préparer ? Donc, bien sûr qu'il y a des demandes comme ça où on se dit, mais à quoi sert-il de vivre encore ? Bien sûr, cette question, à des tas de moments d'une vie, elle peut se poser. Mais encore une fois, c'est une chose de se poser la question, alors qu'on sait très bien que la réponse est qu'il faut vivre quand même. Et c'en est une autre que de se dire, ben, en fait, quelqu'un va surgir et hop, en profiter pour l'exécuter. Et toute notre société va s'organiser, la société va s'organiser pour le rendre possible. C'est ça qui
est. C'est une culture de la mort, d'une certaine façon.
Ben, c'est ce qu'on peut appeler une culture de la mort, en tout cas. C'est une culture dans laquelle on peine à céder à vivre, à se soutenir pour vivre et pour aimer. Et c'est là où, en fait, la loi essaie de répondre à quelques cas précis qui peuvent être très douloureux. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup de médecins, quand même, spécialisés du sujet, dire que si on appliquait vraiment la prise en charge de la douleur qu'on est capable de faire aujourd'hui, et si on l'appliquait vraiment dès les commencements, on éviterait ces situations terribles. Après, qu'il y ait une fascination pour la mort, qu'il y ait une certaine attirance vers le fait de mourir et une volonté de maîtrise de sa vie au point de décider de mourir soi-même, ça fait partie aussi de l'humanité. Ça veut pas dire que la société doit s'organiser autour de cela. Certaines personnes portent cela, ça veut pas dire que toute la société doit s'organiser autour de ce désir-là. Je crois que nos sociétés ont beaucoup mieux à faire et que c'est d'autant plus important qu'encore une fois, nous allons être des sociétés de gens âgés, nous avons besoin de nous soutenir, Nous avons besoin d'apprendre à dépendre des autres et à le vivre, pas simplement comme une déchéance, mais comme un aspect de notre humanité. Il faut apprivoiser davantage notre vulnérabilité, notre besoin les uns des autres. Et ça, c'est un travail culturel, je dirais, qui doit se faire dès le début de la vie et dès les débuts de l'éducation. Donc c'est tout un travail de long terme, c'est un vrai travail de civilisation qu'il faut mener sur le long terme. Et cette loi me paraît, pour ma part, être comme une sorte de raccourci, comme une porte de sortie qui va nous priver d'un vrai effort de civilisation.
Mais le message dans cette société médiatique de formules, le message a du mal à passer, parce que ces cas dont vous dites, et c'est vrai Monseigneur, qu'ils sont quand même extrêmement limités en nombre, ouvrent la porte à des dérapages, à des personnes dont Sandrine Leroy vous évoquiez, qui eux se disent ben voilà peut-être une porte de sortie, alors que c'est pas forcément une sortie. Vous
voyez. Moi je suis frappé, vous voyez, je trouve que depuis 2 ans que nous travaillons ce sujet, nous les évêques, on a eu, je trouve, beaucoup de mal à mobiliser le peuple, les chrétiens, les fidèles. On a eu du mal à ce que les paroisses s'emparent du sujet, qu'il y ait des soirées ou des temps de réflexion, etc. Mais depuis que la loi a été, le projet de loi a été publié, moi je trouve que beaucoup de gens m'en parlent, beaucoup de gens m'en parlent, alors vous me direz c'est ceux qui viennent me voir, mais m'en parlent avec inquiétude et avec une certaine, éventuellement avec une certaine angoisse dans la marche à travers le diocèse que nous avons faite fin avril, début mai. Beaucoup de personnes sont venues me parler de ce sujet. Donc le sujet, l'opinion publique, elle n'est pas aussi monolithique qu'on veut nous le faire croire, je crois.
Encore des chemins d'espérance, Jérôme Sainton, pour non pas peut-être convaincre, mais aussi amener quand même une réflexion autour de ces questions. En une minute et demie, c'est court. Hein. Mais parfois, oui. Il y a une minute et demie pour tout le dossier, hein, je vous dis tout de suite.
Il est toujours... plus que permis, il nous est demandé d'espérer, en sachant que ce qui est dur, c'est cet arrière-fond civilisationnel souligné par Monseigneur. C'est que moi, je le vis dans presque toutes mes consultations, et donc c'est pas de la fin de vie tous les jours. Hein. De toute façon, on est dans une société qui est très très exigeante, qui demande de plus en plus de performances, avec des gens qui n'arrivent pas à suivre, et l'euthanasie arrive comme une fuite en avant, en fait, pour ne pas remettre en question les enjeux civilisationnels, et comme une sorte de fuite en avant. Voilà, moi, ce que je... Et donc, ça, c'est lourd, et ça pèse, donc il faut espérer, mais voilà, il faut être conscient aussi du poids qui va pas dans le bon sens.
Demain matin, Sandrine Leroy, vous allez retourner à l'aumônerie, dans les EHPAD, demain
ou
après-demain.
Tout à fait, oui.
Et alors... toutes ces questions, vous les vivez au quotidien, mais elles ne se posent pas directement, vous l'avez dit d'entrée. Il n'y a pas de débat de cette manière-là, mais vous allez être confronté à cet appel, à la vraie rencontre avec tous ceux et toutes celles des hôpitaux, des aumôneries que vous rencontrez.
Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Je ne sais pas comment bien m'exprimer, mais beaucoup me disent aussi... on croit que je suis en EHPAD, que je suis vieux, que je ne sais plus réfléchir, que je n'ai plus ma tête... Mais on ne me demande pas si moi je veux partir.
Merci en tout cas Sandrine Leroy, docteur Jérôme Sainton. Pour conclure, Monseigneur.
Simplement, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui vont rendre visite à un proche, à l'hôpital ou dans un EHPAD. Et il y en a. Et quelquefois, ils y vont parce que c'est leur père, leur mère, leur frère, leur sœur. Mais il m'est arrivé de rencontrer des gens qui allaient pas simplement parce que c'est un voisin, quelqu'un qu'ils connaissent, qui sont croisés et qui se sentent un devoir d'humanité, de fraternité, d'aller visiter cette personne. Ils n'en attendent aucun bénéfice particulier, sinon d'être des êtres humains. Et je voudrais vraiment rendre hommage à toutes ces personnes qui existent et qui devraient nous éclairer. Et puis tous les soignants qui font ce travail.
Merci en tout cas, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le docteur Jérôme Sainton, et puis Sandrine Leroy qui était avec nous. Sandrine Leroy qui était avec nous. On aurait encore le temps d'en parler pendant des minutes et des heures. On aura l'occasion sans doute d'y consacrer encore d'autres émissions. Merci de l'avoir fait. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RCF. Dans un instant, le journal de 19h.